Pallas et Chéri Bibi, chapitre 15. Lune de miel. Elle se levait, dans son doux éclat, sur les flots d'argent de la rade de Villefranche, à l'extrémité du Cap Ferrat, entre Nice et Monte-Carlo. La lune de miel de Monsieur et Madame Didier d'Aumont. C'était là, dans la solitude parfumée des jardins de Thalassa, la magnifique villa que Monsieur de la Boulay possédait sur la Côte d'Azur, qu'ils avaient enfermé leur grand bonheur tout neuf. Accoudé au balcon fleuri, l'heureux couple écoutait en silence les soupirs de la mer pâmée au pied des monts qui gardaient ce golfe enchanté. Deux vaisseaux apesantissaient leur masse sombre et endormie sur le lit de lumière de cette belle nuit marine. Seul le bruit léger de deux rames, qui soulevaient doucement une écume étincelante, se faisait entendre sur la rade, et une barque passa non loin d'eux, presque à leurs pieds. « Mon Dieu, qu'une promenade sur la mer doit être douce à cette heure divine !» murmura Françoise. Elle n'avait pas fini de formuler son vœu que Didier appelait le pêcheur qui conduisait la barque et le priait d'attendre. Ils descendirent le petit escalier qui conduisait à la grève, et, l'homme ayant consenti d'un geste à les prendre avec lui, ils glissaient bientôt sur les lames qui venaient mourir à la pointe du Cap Ferrat. « Vous pêchez souvent à cette heure-ci ? » interrogea Françoise. « Il me semble vous avoir aperçu encore hier, tournant autour du Cap. » L'homme ne répondit que par un grognement. « Décidément, dit Françoise tout bas à Didier, notre matelot n'est pas bavard. » Et ils ne lui adressèrent plus la parole. Ils l'oublièrent même tout à fait. Le bras de Didier pressait doucement la taille de Françoise. La tête de la jeune femme reposait sur l'épaule de l'époux. La brise était pleine de douceur et chargée de parfums qui leur venaient maintenant des jardins de Saint-Jean et des terrasses de Beaulieu. Leurs lèvres se joignaient dans l'heureuse nuit, comme s'ils eussent été seuls. Ce rustre, à quelques pas d'eux, ne comptait pas. Il avait l'air du reste quasi endormi sur ses rames, somnolant dans l'énorme cache-nez qui lui enveloppait la tête. Et cet homme ne dormait pas, et il disait dans le secret de son cœur « Aimez-vous, soyez heureux comme des enfants qui n'ont point de soucis pendant que Chéri Bibi veille, que rien ne vienne troubler les heures de bonheur que vous avez pu ravir au destin. Moi aussi, je les ai connues, ces heures divines. Moi aussi, j'ai su ce que c'était que le baiser d'une femme adorée. Moi aussi, j'ai senti une belle taille ployée dans mes bras. Moi aussi, je les ai entendus, les doux soupirs de l'amour. Hélas, hélas, tout passe. Pressez-vous, les nuits les plus enchantées sont proches des plus noirs chaos. Le gouffre est sous nos pas. Oubliez-le. Oublie-le, Pallas, pendant que tu le peux encore. Je suis venu de très loin pour éloigner de toi les ombres lâchées dans ton ombre et qui te guettent comme une proie. Prie ton Dieu, en lequel tu crois encore, parce qu'il te comble, que je puisse te sauver du malheur avant même que tu t'en doutes. Hélas, hélas, rien n'est plus prompt en ce monde que le malheur. Tu as raison de l'oublier, car tes plus tendres baisers seraient pleins de larmes amères. » Ainsi pensait Chéri Bibi, dans une forme lyrique et naturellement emphatique qui lui était habituelle, quand les circonstances ne le poussaient point à s'exprimer dans le plus épouvantable argot. Ceux qui ont connu comme lui les deux faces de la vie, par suite d'aventures qu'ils ne cherchaient point et qui les ont détournées de leur route première, se retrouve avec une rapidité qui ne saurait surprendre, tantôt avec un cœur plein des rayons d'autrefois, tantôt avec le masque hideux sous lequel la fatalité s'est plu à vouloir étouffer leur première image sans y réussir complètement. Chéri Bibi avait bien deviné ce qui se passait dans l'âme enivrée de Pallas. Elle était dans le moment toute pâmée de reconnaissance pour le maître des choses, de la vie et de la mort, qui lui avait infligé de si dures épreuves, mais qui le récompensait si royalement. Cet hymne secret à la bonté souveraine montait d'autant plus haut que Pallas pouvait se croire désormais à l'abri d'un retour de la méchante fortune. Pour le monde entier, en effet, pensait-il, Pallas était mort. Les journaux lui avaient apporté cette bonne nouvelle quelques mois auparavant. « On a peut-être oublié, disaient les gazettes, le drame dans lequel succomba un banquier célèbre assassiné par le jeune Raoul de Saint-Dalmas. Celui-ci était parvenu à s'échapper du bagne, mais les autorités pénitentiaires viennent d'acquérir la certitude que le misérable est mort dans la forêt vierge, comme tant d'autres qui ont tenté la même aventure. On ne le rechercherait donc plus, et comme, à son arrivée en Europe, il avait appris par la même voie que ceux que l'on appelait là-bas Fric-Frac, le Parisien, le Caïd et le Bêcheur, avait été repris en même temps que le fameux Chéri Bibi, il était en droit de conclure que le passé n'avait plus de menace pour lui. Il était assuré, du reste, que Chéri Bibi avait été l'artisan de cette belle sécurité, et il lui en avait voué une plus forte reconnaissance dans ce temps-là où il pensait encore à Chéri Bibi. Sois donc heureux, Pallas, tu apprendras toujours trop tôt, si tu dois l'apprendre, que tes anciens compagnons de chaîne se sont échappés une fois de plus, après 4 ans de pré, et qu'ils ont été plus habiles cette fois, puisqu'ils sont parvenus à rentrer en France, où ils ont assisté à tes noces. Ah, si tu savais cela! Combien appellerais-tu de tous tes vœux l'ange noir, qui seul peut te sauver, et dont, dans le naturel égoïsme de ton bonheur, tu ne veux même plus te souvenir. Françoise était coquette, ce qui enchantait Didier, qui trouvait, et il avait bien raison, qu'une femme sans coquetterie est une femme sans charme. Pendant les premiers mois de la guerre, Mademoiselle de la Boulay s'était astreinte avec un véritable enthousiasme mystique à la plus stricte simplicité. Mais, en vérité, eût-elle pu prétendre qu'elle aimait uniquement son costume de la Croix-Rouge parce qu'il lui rappelait ses devoirs de charité? Oubliait-elle tout à fait qu'il lui allait si bien? Ses fiançailles, son mariage très mondain, lui fournirent un trop beau prétexte à revenir à ses goûts d'autrefois pour qu'elle ne se retrouvât point en forme devant les chiffons. Ceci, du reste, ne lui enlevait rien de ses qualités les plus solides. Et il est tout à fait ridicule, comme cela se voit chaque jour chez les psychologues simplistes, de prétendre à enfermer les plus nobles sentiments dans un fourreau grossier, tandis que tous les défauts deviennent l'apanage inévitable des petites dames qui aiment trop les rubans. Monsieur Daumont prenait du plaisir à accompagner sa femme dans les magasins ou chez les couturiers, et à Nice, après une flânerie sur la promenade des Anglais, il ne manquait jamais de ramener Françoise sur cette avenue toute fleurie, derrière ses grandes vitres, des dernières éclosions de la mode. Ce jour-là, ils pénétrèrent chez les sœurs Violette, à cause d'une certaine robe de voile blanc bordée de perles, devant laquelle Françoise n'avait pas pu passer sans un soupir. L'aînée des sœurs Violette venait d'arriver de Paris avec toutes sortes de merveilles pour la Côte d'Azur. La maison mère de la place Vendôme avait ainsi des succursales dans toutes les grandes stations d'hiver ou d'été et dans les principales villes d'eau. Françoise n'était pas retournée chez les sœurs Violette depuis la guerre, mais elle les connaissait bien, et elle fut étonnée de voir l'aînée tendre immédiatement la main à son mari avec un bon sourire. Didier la connaissait donc aussi? Didier fréquentait donc la mode avant son mariage? Elle lui en fit la remarque qui lui venait à l'esprit avec une moue charmante et en le menaçant gentiment de son doigt levé. « Madame, ne nous grondez pas, lui dit Mademoiselle Violette aînée en souriant. Il y a un grand secret entre Monsieur Daumont et moi. Mais, comme c'est le secret d'une bonne action, il ne faut pas nous en demander davantage. Je veux connaître le secret, insista joyeusement Françoise. « Un mari ne doit pas avoir de secret pour sa femme. » « Après tout, vous avez raison, madame. Et tenez, le secret, le voici. » À ce moment, une jeune fille paraissait au fond du magasin. Elle était vêtue magnifiquement d'une robe que Françoise considéra aussitôt avec extase. Madame Daumont n'avait même pas regardé le visage de celle qui la portait. Un mannequin de chair ne compte pas beaucoup plus pour les clientes qu'un mannequin de son. Cependant, il fallut bien qu'elle considérât avec quelque attention cette jolie tête au profil d'une finesse aristocratique quand la jeune fille, ayant aperçu M. Daumont, avait poussé une exclamation de joie et, toute rouge d'une émotion heureuse, s'était avancée rapidement vers lui, la main tendue. Et puis, jugeant sans doute son attitude indiscrète, elle s'était arrêtée dans son mouvement et avait murmuré, presque en balbutiant, « Ah, monsieur Daumont, vous êtes donc ici ?»« Et vous-même ?» repartit Pallas avec un bon sourire. « Et il y a longtemps que vous êtes à Nice ?»«
Je l'ai amené avec moi hier, » fit l'aînée des sœurs Violette. « Nous manquons de mannequins ici, et je l'ai enlevé à la caisse à Paris pour lui faire apprendre un métier nouveau ici. Elle fait tout ce que l'on veut. » Elle est charmante, notre protégée, monsieur Daumont.
Ma chère amie, dit alors monsieur Daumont à sa femme, qui ne savait que dire ni que penser, et qui restait légèrement interloquée au milieu de tout ce mystère. J'appelle toute ta bienveillance sur mademoiselle Gisèle, qui en est digne. C'est une histoire que je te raconterai plus tard.
Une bien touchante histoire, madame, exprima mademoiselle Violette, et qui fait grand honneur à votre mari.
Gisèle s'inclina avec beaucoup de grâce devant madame Daumont.
J'essaierai d'être toujours digne de vos bontés, monsieur et madame, fit-elle avec une grande simplicité. Quand maman et moi nous avons su le mariage de monsieur Daumont, nous avons prié pour votre bonheur.
Elle est délicieuse, cette enfant, déclara Françoise, et elle lui donna une solide poignée de main.
« Et regardez comme elle est jolie !»
Puis, se tournant vers son mari, elle ajouta avec une moue adorable,
« Je ne sais pas ce que vous avez encore fait pour qu'on vous marque tant de reconnaissance, mais vous savez les choisir, vos bonnes actions, mon cher Didier. »
Quand ils sortirent du magasin, Françoise, qu'animait la plus vive curiosité, demanda des explications.
« Vite, vite, raconte-moi. Tu sais que je suis jalouse, brigand. »
Mais M. Daumont s'amusait beaucoup de l'impatience de sa femme. Il prenait un air détaché en disant
« Ma chère, c'est un secret, le secret de cette jeune fille. Je ne sais vraiment pas si je puis... »
« Ah, tu te moques de moi. Ça n'est pas Didier. Regarde la confiance que j'ai en toi. » On entre dans un magasin, le premier mannequin que l'on rencontre se jette dans tes bras et je ne lui crève pas les yeux.
« Ce serait dommage, » fit Didier, « car ils sont jolis, ses yeux. »
« Oui, elle a de très jolis yeux bleus, avec une expression d'une douceur mélancolique qui vous poursuit, c'est vrai. »«
Oh, tu es connaisseur, tous mes compliments.
Tout de même, tu avoueras que je suis une bonne fille. »
« Est-ce que je sais ce que tu as fait avant notre mariage ?»«
Françoise !» jeta aussitôt Didier d'une voix sourde. Il y avait tant de reproches dans ce mot que madame Daumont s'arrêta net de plaisanter. Elle vit son mari si pâle qu'elle en fut douloureusement frappée.
« Oh mon Dieu, je ne savais pas te faire tant de peine !»
Il lui prit la main et la serra doucement.
« Ma chérie, » dit-il, tu vas tout savoir, mais n'oublie jamais que depuis que je t'ai vue pour la première fois, il n'y a plus eu pour moi d'autre femme au monde.
Je te crois, mon Didier. »
Ils ne se dirent plus rien tant qu'ils furent au milieu de cette foule élégante qui se presse entre 11 heures et midi sur la promenade de la baie des Anges. Mais dès qu'ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse généralement déserte qui, contournant le château conduit au port, Didier confia à sa femme ce qu'il savait de Gisèle et comment il l'avait connue. C'était lors d'une de ses premières permissions. Il se remettait des fatigues du front dans un petit entresol qu'il avait loué à son arrivée en France, dans le quartier du Luxembourg, devant les jardins qu'il avait toujours aimés et qui lui rappelaient les meilleures heures de son enfance. Un jour, en sortant de son appartement, il avait été arrêté par le plus lugubre des cortèges qui descendaient des mansardes. On conduisait à sa dernière demeure un pauvre diable. Derrière le cercueil descendait tout en larmes une jeune fille qui était si faible qu'elle avait visiblement la plus grande peine à se soutenir. Elle était seule, ou à peu près. Didier lui offrit l'appui de son bras. Elle s'accrocha à ce bras avec un désespoir et en même temps une foi si sincère que Monsieur Daumont en fut ému profondément. Et il la conduisit ainsi jusqu'au cimetière, et il la ramena. Ce ne fut qu'au retour qu'elle sembla s'apercevoir du secours qui lui était venu d'un étranger. « Oh, monsieur, vous êtes bon !» lui dit-elle. Et comme ils étaient arrivés chez eux, elle se sauva, remontant à sa mansarde. Monsieur Daumont questionna la concierge. Il apprit que le père de Gisèle, attaqué par un mal qui ne pardonne guère, la phtisie, ne pouvait plus travailler depuis 2 ans, que la mère était impotente et que la jeune fille ne parvenait à faire vivre cette misérable famille que par un travail écrasant. Ne pouvant guère quitter le logis, elle s'usait à des ouvrages à domicile qui leur permettaient tout juste, à tous trois, de ne pas mourir de faim. Monsieur Daumont connaissait alors l'aînée des sœurs Violette, ayant eu sous ses ordres l'un de ses neveux, un jeune sous-lieutenant avec qui il s'était lié d'amitié au milieu des dangers communs. Il alla trouver cette excellente dame et lui demanda si elle n'aurait pas une place pour une jeune fille honnête et digne de toute sa confiance. Les demoiselles Violette avaient justement besoin d'une caissière, et voici comment Gisèle était entrée dans l'une des premières maisons de couture de Paris, comment sa mère et elle étaient sorties de la misère. En une année, la jeunesse aidant, elle avait reconquis sa belle santé. Enfin, elle était devenue la charmante jeune fille que Françoise avait aperçue tout à l'heure. Les sœurs Violette la trouvaient si jolie qu'elles l'arrachaient quelquefois aux travaux de la caisse pour en user comme de leurs plus précieux mannequins, capables de faire valoir leurs plus sensationnelles créations. Et maintenant, ma chère Françoise, vous en savez aussi long que moi sur Gisèle. Vous serez toujours le meilleur des hommes, déclara Françoise en lui serrant tendrement le bras. On est bon comme ça, ajouta-t-elle avec un sourire un peu malicieux, que dans les romans populaires ou à l'ambigu. Tu te moques de moi, fit Pallas, étonnée et déjà un peu peinée. Mais elle, redevenue tout à fait sérieuse, je t'adore, mon Didier. Ils revinrent sur leurs pas, car c'était l'heure du déjeuner. En se retournant, ils faillirent se heurter à un singulier personnage, à la figure cuivrée, aux yeux sans sourcils et préservés de l'éclat du jour par une énorme paire de lunettes à verre jaune. Cet étrange individu était habillé entièrement de toile blanche. Il avait des souliers blancs. Il était coiffé d'un chapeau melon gris. Didier ne put s'empêcher de tressaillir en l'apercevant. « Comme il ressemble à Yo-Yo !» se dit-il. Mais il ne s'était pas plutôt dit cela qu'il se trouva absurde et impardonnable de penser tout à coup aux gens et aux choses de la forêt vierge sur la promenade des Anglais. « Avez-vous vu ?» demanda Françoise en riant. « En voilà un original. Vous ne savez pas qui c'est ? À ce qu'il paraît que c'est un vrai peau rouge, un chirurgien-dentiste très célèbre à Chicago qui vient d'ouvrir un cabinet à Nice. Aimeriez-vous d'avoir pour dentiste un peau rouge ? Moi, j'aurais peur qu'il m'endorme et qu'il me scalpe. Madame Derlan me disait l'autre jour que toutes les femmes ici en étaient folles et qu'il avait déjà toute la clientèle chic de la colonie étrangère. Monsieur Daumont, souriant, se retourna. L'homme était toujours là, les suivant à 20 pas, fumant sa cigarette. À quelques jours de là, il y eut une fête de charité dans les plus beaux jardins de Simiez, sur les hauteurs qui dominent Nice, au château de Valrose. Madame d'Erlan, qui était l'une des principales organisatrices de cette fête, pria Françoise, qu'elle avait connue petite fille et pour laquelle elle avait toujours montré une tendre affection, d'y venir tenir un comptoir. Françoise ne pouvait refuser. Didier l'accompagna. Il la laissa vendre son tabac de luxe avec toute la liberté et toute la grâce audacieuse que cette fonction exceptionnelle de cigarière comportait. Il erra dans les bosquets, fit le tour d'affreuses ruines pseudo-romaines, se rapprocha du château et y pénétra presque en même temps que le fameux docteur Peau-Rouge, qui était entouré d'une véritable cour de jolies femmes. Il savait maintenant son nom, car on le rencontrait partout. Il s'appelait Monsieur Herbert Ross. En même temps que lui, il pénétra dans la salle de spectacle. Le chirurgien-dentiste de Chicago s'assit devant lui, à côté d'une femme dont la tournure ne semblait pas inconnue à Didier. Cette femme ne cessait de bavarder avec le Peau-Rouge et s'efforçait d'exciter son intérêt. Mais lui, flegmatique comme toujours, ne répondait que par monosyllabes. C'était son genre. On disait du reste qu'il ne savait parler que petit nègre. Sur ces entrefaites, une célèbre chanteuse russe se fit entendre dans l'Alceste de Gluck. Gros succès, suivi de divers exercices au piano, à la harpe, au violon. Enfin, on annonça, dans ses danses de caractère, la célèbre Nina Noah. À ce nom, Didier eut un sursaut. Il l'avait bien lu plusieurs fois, ce nom, dans les journaux, depuis son retour en France. Il n'ignorait pas que la danseuse était toujours aussi courtisée, avait toujours les mêmes succès d'artiste et de jolie femme. Le temps semblait même avoir augmenté sa renommée, ou tout au moins l'engouement du tout Paris pour cette femme qui avait été la maîtresse du jeune Raoul de Saint-Dalmas, n'avait fait que grandir. La guerre était venue et n'avait rien changé à tout cela. À côté de ceux qui se battaient, il y avait ceux qui s'amusaient. Il avait pensé cependant que Nina Noah avait dû bien changer depuis 15 ans. S'il y avait tenu, il aurait pu se rendre compte de la chose par lui-même. L'occasion n'était pas difficile à trouver, mais il ne la cherchait pas. Au contraire, en dépit de l'image que lui renvoyait sa glace et qui lui montrait un Didier qui ne rappelait en rien le Raoul d'autrefois, Pallas ne pouvait s'empêcher de frémir d'une particulière angoisse à l'idée de se retrouver en face d'une figure qui lui avait été jadis familière. S'il allait être reconnu, il avait beau se dire que c'était impossible, il n'en avait pas moins acheté un gros lorgnon noir à bordure d'écailles, dans le dessein de trouver derrière ces verres obscurs un sur-refuge au cas où quelque rencontre subite le mettrait dans un cruel embarras. Nina Noah. Elle était au seuil de tous ses malheurs. Que de folie pour cette femme dont le souvenir lui faisait maintenant horreur. Elle parut. Quel miracle ! Non, elle n'avait pas changé. Elle était toujours aussi fatalement belle. Ses yeux, ses grands yeux de flamme sombre, avaient toujours leur inquiétant éclat. Ses mouvements étaient toujours aussi souples, aussi voluptueux. Elle était toujours aussi jeune. Nina Noah dansa dans une robe de ville qui la déshabillait plus que ne lui fait la simplicité d'une tunique de Corinthe. Quels furent exactement les sentiments de Didier devant cette vision? Constata-t-il la mort de son ancienne passion? Pleura-t-il sur lui-même? Revit-il avec de la haine la cause de tant de malheurs? Il applaudit comme tout le monde, sans savoir beaucoup ce qu'il faisait. 5 minutes plus tard, il sortait de son rêve au son d'une voix qui, elle non plus, n'avait pas changé.
« Eh bien, docteur, vous êtes content ?»
La femme qui était devant lui et qu'il n'avait vu que de dos quand elle bavardait tout bas avec le docteur, c'était Nina.
Didier, instinctivement, mit son binocle noir. Elle s'était assise. Elle avait dansé uniquement pour faire plaisir à ce pou rouge. C'est, du moins, ce qui résultait de ce que l'on entendait de sa conversation. Le capitaine, au surplus, ne l'écoutait plus. Il regardait. Il regardait cette nuque qu'il avait rendue fou jadis. Encore maintenant, il ne pouvait en détacher ses yeux. Mais ce n'était plus cette chair qui le retenait. Ce n'était plus ce cou parfumé qu'il avait autrefois couvert de ses baisers qu'il regardait. C'était, sur cette chair, un collier. Seigneur Dieu ! Il avait connu un collier comme celui-là, et des perles toutes pareilles. Il y avait de cela longtemps, bien longtemps. Il y avait plus de 15 ans de cela. Oui, il avait tenu un joyau qui ressemblait, à s'y méprendre, à ce bijou qui pendait au cou de Nina. Il avait eu des perles comme celle-là dans sa main, un certain jour que le banquier Reynaud les lui avait confiées, pour qu'il pût apprécier la splendeur du collier de la reine de Carinthie. Ah, comme il voudrait pouvoir en compter les perles! Ce collier, on l'avait assez répété pendant le procès pour que Pallas s'en souvînt, ce collier avait 60 perles. Ce collier que Raoul de Saint-Dalmas avait, s'il fallait en croire, monsieur le procureur de la République, volé, et pour la possession duquel Raoul de Saint-Dalmas n'avait pas hésité à assassiner son bienfaiteur. Cela vous donne un coup au cœur de se retrouver subitement, au bout de 15 ans, en face d'un collier pareil. Tout pareil, car enfin, si c'était le même. Je dis vague. Nina Noa, un collier de perles, l'assassinat de Reynaud. Tout tourne en même temps dans la pauvre tête de Didier. « Quoi d'étonnant, se dit-il, à ce que je ne puisse voir un collier sans penser à l'autre. Mais l'autre avait une certaine perle, une perle qui avait un défaut, une perle qui avait perdu sa lumière. Monsieur Reynaud l'avait fait remarquer. Certes, moi aussi je me rappelle cette perle-là. Elle n'était pas parfaitement ronde non plus. Certes. « Certes, je la vois encore, mais ici, je ne la vois plus. Est-ce que je deviens fou? Est-ce que je n'aurai pas bientôt fini de regarder ce collier et d'essayer d'en compter les perles? Pourquoi ne pas m'écrier tout de suite dans cette salle au milieu des gens? Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, Raoul de Saint-Dalmas. J'ai été condamné à mort pour avoir assassiné le propriétaire de ce collier-là. Il faut que cette dame me dise d'où elle tient ce collier. » Il avait peur de lui-même. Il sortit de la salle. Par un singulier hasard, Nina Noa sortait derrière lui. Elle n'était plus avec le pot rouge, mais avec un monsieur très élégant qui la quitta du reste presque aussitôt et à qui elle dit « À ce soir, mon cher Saint-Ine. » Dans le moment même, Didier rencontrait Madame d'Erlan, une amie de sa femme, qui, elle aussi, sortait de la salle de spectacle et qui arrêta le capitaine. C'était une pétillante, sémillante dame, un peu mûre et au sourire d'une jeunesse fanée. Elle ne manquait ni d'esprit, ni de malice, ni surtout de méchanceté. Elle aimait de taquiner les amoureux. Elle avait assisté au bonheur de Françoise avec une joie accablante, et elle ne manquait jamais de dire à la jeune femme, quand elle la surprenait, regardant son mari avec adoration. « Profites-en, ma petite, profites-en, on ne sait jamais ce que ça dure avec ces messieurs. » Elle passait, du reste, pour avoir une certaine expérience des choses de l'amour, et les méchantes langues prétendaient que, dans son temps, elle avait rarement laissé échapper l'occasion d'éprouver l'inconstance des hommes. « Eh bien ?» demanda-t-elle à Didier. « Comment trouvez-vous notre petite fête ?
J'ai vu tout à l'heure que vous ne vous y ennuyiez pas trop et que vous preniez un plaisir extrême à voir danser la Nina Noa.
Mon Dieu, répondit Pallas en se forçant à répondre et en faisant appel à une énergie surhumaine pour paraître naturelle,
car au prononcer de son nom, Nina Noa avait tourné la tête et le regardait maintenant avec une attention redoutable.
Mon Dieu, il est vrai qu'elle danse fort bien.
Et qu'elle est l'une de nos plus belles artistes, assurément.
Ah, brigand, elle était devant vous. Je vous regardais, vous ne l'avez pas quittée des yeux.
Mais je raconterai tout cela à Françoise. Il faut la mettre sur ses gardes, cette innocente.
Nina Noa passait maintenant devant eux, d'un air fort indifférent.
Ah! Madame d'Erlan pouvait bien dire tout ce qu'elle voulait. Nina Noa n'avait pas reconnu Pallas.
Chapitre 16. Le programme très simple de Chéri Bibi. Ce même soir, quelques minutes avant l'arrivée du train de Paris, un domestique en livrée, coiffé d'une casquette dont la visière de cuir bouilli lui cachait un œil, cependant que l'autre disparaissait sous une large bande noire qui lui faisait le tour de la tête, arpentait les quais de la gare de Nice. Non seulement on ne voyait presque rien de la figure de cet homme, mais encore on était en droit de se demander comment il pouvait y voir lui-même. Toutefois, son pas lourd mais assuré attestait qu'en dépit de tout son emmitouflement, il conservait une vision sûre des choses extérieures. Il évitait les groupes, les employés, le chef de gare et même le commissaire central. Quand le train entra en gare, il alla se placer près de la porte de sortie et laissa tranquillement défiler devant lui les voyageurs chargés de leurs colis. De temps en temps, comme il s'était placé dans un coin assez obscur, il était bousculé par la foule, mais il ne bougeait pas plus qu'un roc. Soudain, il fit un pas en avant, allongea le bras et agrippa un long monsieur d'une maigreur évidente qui flottait dans un vaste pardessus. Le monsieur sursauta et murmura « Ah, c'est vous, monsieur le marque !» L'autre lui envoya un renfoncement dans les côtes qui arrêta net la phrase et les manifestations de joie du voyageur.
« Vous avez fait un bon voyage, monsieur Hilaire ?»
demanda le domestique en s'emparant de la valise du monsieur en par-dessus flottant.
« Très bon voyage, monsieur le Seigneur.
Appelle-moi Casimir, idiot !»«
Bien, monsieur Casimir, mais je ne veux pas que vous me portiez ma valise. Je ne suis point fatigué. On voyage très bien dans ces premières. Maintenant, je ne veux plus voyager qu'en première. »
« La ferme !» gronda monsieur Casimir.
Monsieur Hilaire ne dit plus rien. Quand ils furent dans l'avenue de la gare à la hauteur de Notre-Dame, le domestique dit au voyageur
« Maintenant, tu peux parler. »
« Eh bien, c'est tant mieux, » soupira monsieur Hilaire, « car j'ai beaucoup de choses à dire à monsieur Lemarque,
monsieur Casimir. » « D'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir réalisé le plus beau rêve de ma vie, un voyage sur la Côte d'Azur. »«
Madame, votre épouse n'a pas mis trop d'obstacles à votre départ, monsieur Hilaire. »«
Tout ce qu'elle a pu imaginer pour m'empêcher de partir, elle l'a fait. Mais il a bien fallu qu'elle s'inclinât quand je lui eus dit que j'étais chargée par le gouvernement d'une mission secrète relative à l'approvisionnement du littoral méditerranéen en pâtes alimentaires. Mais cela encore ne s'est pas passé sans observation désobligeante, et elle m'a annoncé les pires catastrophes, comme des déraillements de train, un tremblement de terre et quelques maladies épidémiques. Mais je ne veux plus penser à ces instants désagréables. Je suis à Nice, je le vois, ce pays de soleil.
Tu le verras demain matin, corrigea monsieur Casimir. En attendant, nous allons dîner ensemble.
Je suis libre ce soir, répliqua Chéri Bibi.
Mon maître m'a donné congé.
Votre maître? Vous avez donc un maître, vous?
Je croyais que ce costume n'était qu'une apparence. Je sais que monsieur le marquis a toujours aimé les travestissements et que même autant...
Es-tu ivre, la ficelle ?
Pardon, pardon, c'est plus fort que moi. Je me crois toujours au temps où monsieur le marquis se déguisait pour courir les aventures. Et puis, c'est vrai, ce pays, cette terre, me grise, je ne me reconnais plus. J'ai rajeuni de 20 ans. Je vous demande pardon.
Écoute,
je suis concierge chez le docteur Herbert Ross, 95 bis, avenue Victor Hugo, un chirurgien dentiste à la mode et qui a déjà une fort jolie clientèle. N'oublie pas cela, c'est tout ce que je te demande. Et toi, sais-tu ce que tu es ?
Comment, si je sais ce que je suis ?
Je suis monsieur Hilaire, épicier, en villégiature sur la Côte d'Azur, dont tout le programme est de rire et de s'amuser. Ils étaient arrivés dans une rue sombre qui débouchait sur la place Masséna. Chéri Bibi arrêta la ficelle devant un hôtel.
« Je t'ai retenu une chambre ici, à ton nom. Va, je t'attends. »
5 minutes plus tard, monsieur Hilaire était de retour.
« Je n'ai pris que le temps de me laver les mains, dit-il, et de me rafraîchir le visage. Où allons-nous dîner ? C'est moi qui régale. »
Chéri Bibi conduisit la ficelle dans un restaurant de la vieille ville, célèbre pour ses tripes et son petit vin blanc. Monsieur Hilaire était redevenu de la meilleure humeur du monde. Après le dessert, il alluma un cigare que lui passa Chéri Bibi et il le savoura béatement en se renversant sur sa chaise.
« Tu m'as fait connaître ton programme, » lui dit Chéri Bibi en posant ses coudes sur la table pendant qu'on leur versait le café.
« Je vais maintenant, si tu me le permets, te parler un peu du mien. Je te jure qu'il va rajeunir, mon bon ami la ficelle, et que tu te croiras revenu au meilleur temps de notre jeunesse.
« Je vous écoute, monsieur Casimir, » répondit l'autre en lançant sa fumée au plafond et en paraissant s'intéresser beaucoup aux spirales dont il s'entourait.
« Je ne cache rien pour oublier les tracas du ménage et les complications du commerce, » commença Chéri Bibi en manière de prologue. « Comme certaines entreprises où il faut déployer quelques astuces, de la présence d'esprit, du sang-froid, beaucoup de courage. Enfin, toutes ces vertus qui nous ont permis jadis de surmonter quelques grosses difficultés dont tu ne saurais avoir perdu le souvenir.
« Ouais, si je vous comprends bien, monsieur Casimir, votre programme, tout en nous offrant de la distraction, ne serait point spécialement un programme de tout repos.
Si tu tiens absolument à te croiser les bras pendant que je travaille, tu me regarderas faire, » répliqua Chéri Bibi d'une voix rude.
« J'en aurais bien du remords, monsieur Casimir.
Si tu as trop de remords, tu reprendras le train. »
« Ne vous fâchez pas, monsieur Casimir, vous savez bien que ma vie vous appartient. Je vous l'ai donnée une fois pour toutes. Je vous dois tout. Je ne suis pas un ingrat. Dites-moi donc de quoi il retourne. »
prononça monsieur Hilaire avec un gros soupir.
« Il y a encore quelqu'un qui vous gêne ?»«
Oui, il y a encore quelqu'un qui me gêne, monsieur Hilaire. Vous l'avez dit. »«
Tant pis pour lui !»
ressoupira avec une grande tristesse l'épicier.
« Oui, tant pis pour lui. Du moment qu'il vous gêne, il me gêne aussi. Et tenez, j'aime mieux vous dire tout de suite. »
ajouta la ficelle, qui voyait bien que c'était fini de plaisanter.
Que je ne serai tranquille que lorsque ce quelqu'un-là ne vous gênera plus. Alors nous pourrons goûter en paix les délices de cet adorable pays. À nous deux, j'espère bien, mon Dieu, que nous saurons nous arranger pour qu'il ne vous gêne pas bien longtemps.
Je n'en attendais pas moins de toi, mon cher la ficelle. Sache donc que le monsieur qui me gêne est justement une certaine personne chez qui tu entreras dès demain comme chauffeur.
Eh quoi ? Soupira l'épicier. Vous m'avez déjà trouvé une place de chauffeur, et pour demain matin ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là ?
C'est un monsieur très bien. Il ne fait rien, et il s'appelle monsieur de Saint-Ine.
Je vous remercie, monsieur, de m'avoir trouvé une place aussi distinguée. Monsieur Casimir est bien concierge chez un chirurgien-dentiste. Je ne vois pas pourquoi Monsieur Hilaire ne serait pas chauffeur chez un rentier. Et que faut-il faire ?
Eh bien, tu t'occuperas de ton auto, comme tu faisais autrefois chez moi.
Et puis ?
Et puis, tu auras bien soin de regarder tout ce qui se passe autour de toi.
Et après ?
Et d'écouter tout ce qu'on dira.
Allons, allons, tout cela n'est pas très difficile.
Ton futur maître, ce monsieur de Saint-Yne, s'intéresse plus particulièrement à quelqu'un que tu connais, mon cher Laficelle.
À qui donc ? Je connais tant de monde depuis que je suis dans le commerce.
Tu sais bien, ce monsieur qui est venu frapper de ma part à ta porte, certain soir.
Ah oui, mais je ne sais seulement pas comment il s'appelle.
Il s'appelle Didier Daumont. C'est un héros de la Grande Guerre. Enfin, il a fait un si beau mariage qu'on en a parlé dans tous les journaux. Quand je t'envoie des clients, moi, monsieur Hilaire, je t'envoie ce qu'il y a de mieux.
Ouais, ouais, je vous en suis bien reconnaissant. Et qu'est-ce que mon maître, monsieur de Saint-Yne, a à faire avec ce monsieur Daumont ?
Il a à faire qu'il lui en veut à mort, et qu'il a juré sa perte sans même que l'autre s'en doute, le pauvre cher homme.
Oui, da ! Eh bien qu'il y touche ! Un homme qui est venu me trouver de votre part et qui dit si bien « Fatalitas !»
Chéribibi se pencha à l'oreille de la ficelle.
« Tant que ce monsieur de Saint-Yne vivra, il n'y aura pas une seconde de sécurité pour ton client, la ficelle. »
Monsieur Hilaire se gratta l'oreille.
« Dans ces conditions, l'affaire de mon patron est claire, soupira-t-il. Encore un qui ne fera pas de vieux os. »
« Oui, gronda Chéribibi, un accident est si vite arrivé. »
« Ah, à propos, ton patron a un ami, une espèce d'olibrius qui lui sert d'homme à tout faire et qui s'appelle Onésime Belon, un vieux copain à lui qu'il a tiré de la misère et qu'il appelle dans le particulier le bêcheur. On n'a jamais su pourquoi.
« Je le surveillerai aussi, celui-là. »«
Comment, si tu le surveilleras ? Je crois bien que tu le surveilleras. » Il est aussi dangereux que son patron pour notre ami le capitaine. Notre ami le capitaine n'aura pas la vie tranquille tant que cet Onésime Belon... »
Chéribibi n'acheva pas, mais il eut une torsion de ses deux mains réunies qui ne laissait aucun doute sur la nécessité où l'on était de se débarrasser également de cet oiseau-là.
« Ah oui !» soupira Monsieur Hilaire. « Celui-là aussi... »
« Je ne veux pas non plus te laisser ignorer que l'Onésime Belon est tout le temps fourré chez un certain marchand d'habits de la vieille ville, ce qui explique pourquoi il est toujours si mal habillé. Un surnommé Fric-Frac, qui est reconnaissable à ce qu'il marche de travers comme un crabe, et porte, sans arriver à le dissimuler, une épaule plus haute que l'autre. Ce Fric-Frac se fait appeler dans la vieille ville « Monsieur Toulouse ».
« Est-ce que celui-là en veut aussi à Monsieur Daumont ?»
interrogea avec une inquiétude grandissante ce pauvre Monsieur Hilaire qui commençait à suer à grosses gouttes.
« Comment, s'il lui en veut, il a juré de le ruiner ou de lui faire passer le goût du pain ?»«
Comprends bien. Tous ces gens-là ont un certain secret avec lequel ils ont résolu de faire chanter à mort le capitaine. »«
Le faire chanter ? À mort ?»
« Oui, oui, je comprends toute l'affaire. Elle n'est pas compliquée. Faire chanter à mort. Alors, ce monsieur Fric-Frac... »«
Ce monsieur Fric-Frac aussi, »
dit simplement Chéribibi.
« Aussi ?»«
Aussi. »«
Ça fait trois ?»
osa faire remarquer monsieur Hilaire.
« On apprend à compter dans l'épicerie. »
Le ton sur lequel cette phrase terrible fut lancée dans le nez de M. Hilaire fit frissonner le pauvre homme de la tête aux pieds. Chéribibi se leva, paya et siffla la ficelle comme un maître appelle son chien. M. Hilaire sursauta et le suivit tel un toutou craintif qui vient de recevoir une bonne raclée.
« Je t'ai connu plus de ressort, la ficelle !»
et mit Chéri Bibi quand ils furent dans la rue.
« Dame, trois ! Vous savez, monsieur le marquis, je n'ai plus l'habitude. Je me suis passablement rouillée rue Saint-Roch. Laissez-moi seulement le temps de me faire à cette idée que nous avons un peu d'ouvrage sur le trimard. »
« Écoute, la ficelle, je t'aime bien. Mais si tu continues à faire un nez pareil à l'idée que tu vas rendre service à un brave soldat, idée qui devrait te transporter d'enthousiasme, songe donc que sans nous, il serait la proie de ces misérables. »
« Des misérables, monsieur le marquis, arrêtons, je sens que l'enthousiasme me vient. »
« Des maîtres chanteurs ?»«
Les maîtres chanteurs m'ont toujours dégoûté, » déclara monsieur Hilaire en crachant dans le ruisseau comme s'il les couvrait de sa bave.
« à la bonne heure, je te retrouve. Songe que nous allons faire le bien dans l'ombre. »
« Oui, oui, j'y songe, dans l'ombre autant que possible. Sûr qu'on ne nous décorera pas encore de ce coup-là. »
« Non, mais tu auras ta conscience pour toi. »
« Monsieur le marquis, il suffit, vous me décidez. »
prononça monsieur Hilaire sur un ton à tout prendre assez lamentable.
« Eh bien, puisque te voilà devenu raisonnable, je vais t'achever le programme. »
« Quoi, ce n'est pas encore fini ?
Oh, presque fini !»«
Presque !» ressoupira monsieur Hilaire.
« Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ?»«
C'est ce presque. Vous avez dit presque, monsieur Casimir. Eh bien, je l'avoue, ce presque m'épouvante. Autrefois, quand monsieur le marquis avait presque fini, nous en avions encore pour 8 jours. »
Quelle pitié et que d'histoire pour un marchand de tapis !
Gronda Chéri Bibi.
Un marchand de tapis ?
Oui, un Tunisien qu'ils appellent le Caïd et qui trimballe toute la journée des tapis sur son épaule. Un moricaud sans importance.
Ah, ça n'est que ça ! S'exclama monsieur Hilaire. Je vois ça d'ici. Un lit jamais malade, jamais mourit.
« Qu'il dit ?» grogna férocement Chéri Bibi.
« Comment qu'il dit ?»«
Ben oui, s'il dit « lit jamais malade, jamais mourit », il se trompe, voilà tout.
Ah, »« Très bien, monsieur le marquis, on a toujours de bien bonnes, et après, il n'y en a plus. »«
Non, je ne pense pas en avoir oublié. Et puis, une fois pour toutes, appelle-moi Casimir. »
« Bien, bien, monsieur Casimir. »
Monsieur Hilaire ne prononça plus un mot. Monsieur Casimir respecta son silence. Ainsi arrivèrent-ils à quelques pas de l'hôtel.
« Je puis rentrer me coucher ?»
demanda monsieur Hilaire d'une voix plaintive. « On ne commence pas ce soir. »«
Non, va te reposer. Et surtout pas de mauvais rêves. »«
Bonne nuit, monsieur Casimir. »«
Bonne nuit, monsieur Hilaire. »
Chapitre 17. Monsieur de Saint-Yne. Il y avait quelques jours que monsieur Hilaire était chez son nouveau patron. Jusqu'alors, il n'avait eu qu'à se louer d'une place aussi exceptionnelle. Ses appointements n'étaient pas minces. Quand il s'était présenté devant ce monsieur de Saint-Yne, celui-ci l'avait dévisagé assez longuement et avait dit « Il a l'air d'une bête, mais il doit être bigrement intelligent. » Un tel jugement n'était point pour déplaire absolument à monsieur Hilaire, qui se consolait de la première partie de la phrase en se disant « J'ai l'air que je veux, quand je veux. » Ayant fermé la porte du petit bureau dans lequel il l'avait reçu, monsieur de Saint-Yne, qui était un homme entre les deux âges, fort élégant, avait continué tout en arrangeant sa cravate devant une glace, grâce à laquelle il ne perdait aucun geste de monsieur Hilaire. « Mon garçon, vous m'êtes recommandé par un ami de mademoiselle Nina Noah, qui m'a affirmé que vous étiez d'un tempérament fort dévoué. »
Monsieur Hilaire salua.
« Et d'une discrétion telle que vous vous refuseriez certainement à me faire connaître le détail de vos dévouements dans votre dernière place. Il paraît que vous y avez rendu des services rares, que seuls les événements d'une guerre imprévue ont pu interrompre. Tout ceci me convient parfaitement. On m'a assuré que vous ne faisiez rien pour rien et que votre dévouement n'allait jamais à l'encontre de vos intérêts. Je vous donne 1 000 francs par mois. Êtes-vous satisfait ?
Monsieur, avait répondu flegmatiquement Monsieur Hilaire, ceci me paraît convenable pour commencer.
Nous voilà donc d'accord, avait conclu Monsieur de Saint-Yin. Mais il est bien entendu que vous obéissez au doigt et à l'œil, sans jamais une observation, sans jamais essayer de comprendre de ce que l'on ne vous explique pas, et en faisant celui qui ne comprend pas, quand vous avez compris. Enfin, que vous ne vous étonnerez de rien.
Monsieur, voilà qui est réglé. C'est justement une place comme celle-là que je cherchais.
Eh bien, allez trouver Monsieur Onésine Belon, qui vous parlera du service courant. C'est encore à lui que vous aurez affaire quand il s'agira du service exceptionnel. Il faut obéir en tout à Monsieur Onésine Belon comme à moi-même.
Monsieur Hilaire n'avait eu également qu'à se louer de Monsieur Onésine Belon. En somme, la place n'était pas dure. Il avait l'oreille fine et l'œil scrutateur. Quand il avait une minute à lui, il allait porter le résultat de ses observations au concierge du docteur Ross, qui n'habitait pas bien loin de là, avenue Victor Hugo. Le docteur Ross ne recevait jamais passé 5 heures du soir. Aussi, à partir de 7 heures, le concierge pouvait-il fermer sa loge. C'était un singulier concierge qui, pour ne pas être dérangé par la sonnette de nuit, allait coucher dans une petite maison de Saint-Jean qu'il avait louée sur le bord de l'eau, pas bien loin du Cap Ferrat. Quelquefois, la ficelle avait le temps de l'accompagner jusqu'en ces lointains parages. Un soir, qu'il passait par le mont Boron, ils rencontrèrent un certain marchand de tapis qui dut leur adresser quelques propos désagréables, car ils eurent avec lui une assez violente querelle. La ficelle en était encore tout animée en quittant son ami un quart d'heure plus tard au carrefour de la route de Villefranche.
« Eh ben, fit-il avec un gros soupir.
« Oh !» lui répliqua la voix rude de Chéri Bibi. « Celui-là, ça ne compte pas. »
Chapitre 18 Les cauchemars de palace. Mais revenons à Monsieur de Saint-Yin. Ce soir-là, Monsieur de Saint-Yin, en quittant Monsieur Onésine Belon, avec qui il avait eu une longue conférence, ouvrit la petite porte qui donnait sur le boulevard désert qui bordait la mer et remonta vers les lumières de la ville. Il passa devant la jetée promenade, traversa le jardin public, s'arrêta devant la devanture encore éclairée des sœurs Violette et dit « Tiens, tiens, Gisèle travaille tard ce soir. » Monsieur de Saint-Yin était amoureux. D'abord, en principe, Monsieur de Saint-Yin était toujours amoureux. Il tenait ce tempérament sentimental d'un certain Arigonde qui avait été célèbre dans sa jeunesse pour ses succès auprès des dames. Nous savons que cette célébrité l'avait conduit jusqu'en cour d'assises et même plus loin, à la suite de malheurs irrémédiables survenus à ses conquêtes. Les quelques années passées au bagne n'avaient point éteint un aussi rare foyer. Dans les premiers temps, l'ex-bellâtre avait gaspillé ses faveurs et ne s'était point montré trop sévère dans le choix de ses bonnes fortunes. Mais, là de trop d'occasions banales et de victoires acquises d'avance, il éprouvait bientôt le besoin d'une aventure plus sérieuse, plus difficile et plus durable. Il avait eu l'occasion de voir à Paris Gisèle, chez les sœurs Violette, qui habillait Nina Noah. Nina Noah, pour servir des dessins qui se devinent, surtout si on veut bien se rappeler ses origines hongroises et sa trop récente naturalisation, ne manquait pas alors une occasion de produire dans les milieux mondains ce monsieur de Saint-Yin comme un ancien ami qui faisait de l'élevage en Argentine et qui était venu en France lors de la déclaration de guerre
pour étudier les moyens les plus efficaces d'être utile là-bas à son pays. La vérité, trop simple, hélas, était que la propagande ennemie, toujours à l'affût pour augmenter son armée d'espions, dans l'ancien comme dans le nouveau monde, et qui avait des ramifications jusque dans les placés de la Guyane, avait enrôlé Arrigonde et sa bande dans le moment que, s'étant échappés une seconde fois du bagne, ils étaient arrivés, dénués de tout, aux confins de la Guyane hollandaise. Les agents de la « propagande » avaient tout de suite vu le parti qu'ils pouvaient tirer de ces messieurs, et ils s'étaient chargés de leur reclassement en France. Nina Noah avait dû adopter Arrigonde, et lorsqu'elle avait reçu la mission d'aller organiser l'espionnage mondain sur la Côte d'Azur, elle l'avait emmenée avec elle. Toute la bande avait suivi. La première idée du Parisien avait été de faire la cour à la danseuse, mais celle-ci l'en avait si brutalement découragée qu'il se l'était tenu pour dit. « Nous ne sommes pas ici pour nous amuser », lui avait-elle jeté. Le sentiment de sa dépendance était des plus désagréables à M. de Saint-Yne. En attendant que le grand coup médité contre Pallas réussît, il avait donc cherché à se distraire et à se consoler du dédain de Nina Noah par l'une de ses petites intrigues sentimentales où il était passé maître. La jolie figure mélancolique de Gisèle l'avait frappé dès le premier abord, un jour qu'il avait accompagné la danseuse chez les sœurs Violette. À Nice, en passant devant la succursale des sœurs Violette, il avait pu apercevoir de nouveau la jeune fille s'occupant de la vente. Depuis qu'il la poursuivait, elle ne répondait nullement à ses avances, et il en était enchanté. Un peu de résistance n'était point pour lui déplaire. Ce soir encore, ses pas l'avaient conduit tout naturellement vers elle. Et maintenant il la regardait, avec une certaine émotion, faire ses derniers rangements avant son départ. Il savait qu'elle habitait une chambre dans une maison de la rue d'Angleterre, car il l'avait suivie jusque-là, et il était bien décidé à recommencer cette petite promenade le soir même. Aussi son ennui fut-il profond quand la porte du magasin s'ouvrit soudain et qu'il se trouva en face de Nina Noah et de sa femme de chambre. « Qu'est-ce que vous faites là, Saint-Yne ? Dites donc, accompagnez-moi jusqu'à chez moi, il faut que je vous parle. »« Mais, ma chère amie, j'ai justement rendez-vous... »« Ta, ta, ta ! Vous attendez Gisèle, n'est-ce pas ?»« Ah, cela vous étonne que je sois au courant. Gisèle s'est plainte de vous à Violette aînée, qui m'en a placé deux mots. » Mais vos histoires de cœur ne me regardent pas. Venez avec moi. Il y a là-haut quelqu'un qui aura du plaisir à votre conversation. » Il dut obéir. Il était exaspéré. Il pensait qu'il aurait pu encore rejoindre Gisèle avant qu'elle fût arrivée rue d'Angleterre. Quand elle fut chez elle, Nina Noah ouvrit une porte que de Saint-Yne avait cru jusqu'alors condamnée. Cette porte faisait communiquer son appartement avec l'appartement voisin. Elle y entra, et il entendit qu'elle disait « Oui, ma robe sera prête pour demain soir. » Et une voix demanda qu'il ne reconnut pas tout de suite. « Sais-tu si les Daumont iront chez Madame Derland ?»« Oui, ils iront, je l'ai su par Mademoiselle Violette, qui a vu Madame Daumont aujourd'hui. » Puis il y eut quelques phrases échangées tout bas, et Nina Noah vint lui dire de passer dans l'appartement voisin. Monsieur de Saint-Yne vit alors un homme, étendu sur un canapé, la figure très pâle et les yeux fiévreux. « Ah, monsieur le comte !»« Oui, c'est moi, ressuscité tout à fait, ou à peu près. Je reviens de loin. Ce capitaine Daumont tire pourtant comme une mazette, mais on lui revaudra cela, n'est-ce pas, Saint-Yne ? « Oui, oui, monsieur le comte. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? Il n'y a plus en France de Daumont depuis 50 ans. En voilà un qui revient de là-bas avec des millions. Paraît qu'il possède, au fond de la forêt vierge, une exploitation magnifique. Tout de même, ça ne se cache pas une affaire pareille. J'ai fait prendre des renseignements. Daumont, inconnu dans les Guyanes. Vous autres, dans vos pérégrinations à travers le pays, Vous n'avez jamais entendu parler d'une entreprise d'Aumont ?»«
Ma foi, non. » »«
Son affaire doit être située dans le haut Oyapok et même plus haut. C'est très sauvage par là. Personne n'y va. Mais dans ces contrées-là, il suffit d'un coup pour réussir. »
C'est bizarre, fit tout à coup Nina Noah. J'ai vu pour la première fois le capitaine d'Aumont l'autre jour à la fête de Valrose, et j'ai eu tout de suite la sensation que cette figure-là ne m'était pas inconnue.
Oh, on s'imagine souvent cela,
exprima Saint-Ine avec un hochement de tête.
Écoutez, Saint-Ine, reprit Gorbiot, j'ai fait faire une enquête des plus serrées sur le capitaine d'Aumont. Dans sa vie, il y a un trou. Il faut savoir ce qu'il y a dans ce trou-là, mon garçon.
Saint-Ine s'inclina.
On essaiera, monsieur le comte.
Sur quoi il prit congé.
Ainsi, on l'avait fait venir pour le Daumont.
Plus souvent que je te donnerai à manger un pareil morceau,
grogna-t-il, égoïste. En repassant devant le magasin des dames violettes, il pensa de nouveau à Gisèle, avec une animosité qui ne faisait que décupler le désir qu'il avait du joli mannequin. Mais il ne le vit plus. En effet, pendant qu'il suivait Nina Noah, où il plaisait à celle-ci de le conduire, on était venu chercher en hâte Gisèle. Sa mère était à toute extrémité, et la pauvre enfant était partie affolée. Quelques minutes plus tard, Monsieur et Madame d'Aumont pénétraient dans le magasin. Violette, aînée, apprenait à Monsieur d'Aumont le malheur qui menaçait sa protégée, et Didier proposait immédiatement de se rendre chez elle. Surprise un peu de l'émoi de son mari, Françoise n'en acquiesçait pas moins immédiatement à son désir, et Mademoiselle Violette elle-même les conduisait rue d'Angleterre. 5 minutes plus tard, il frappait à la porte d'un petit appartement au 5e. Une garde-malade vint ouvrir. Ils se trouvèrent dans une antichambre encombrée d'un lit-cage. C'était là que couchait Gisèle. Mademoiselle Violette était déjà passée dans la chambre de la maman. Les nouvelles étaient meilleures. Elle avait eu une crise, mais le docteur avait prononcé des paroles d'espoir, expliquait la garde. Mademoiselle Violette vint leur dire qu'ils pouvaient entrer. Ils pénétrèrent dans une pièce tenue très coquettement et où la maman de Gisèle, pâle sur son lit, les accueillit avec un bon sourire. Elle remercia Didier de tout ce qu'il avait fait pour sa fille et pour elle, dans des termes qui firent venir les larmes aux yeux de Françoise. Elle sut également trouver des paroles si jolies pour parler à Françoise de son bonheur que la jeune femme en fut remuée jusqu'au fond de l'âme.
« Mais où est donc Gisèle ?» demanda Didier.
« Elle vient de descendre avec le docteur. Elle a voulu l'accompagner pour le confesser un peu, sans doute, la pauvre enfant. Elle se doute bien que je suis très mal, bien que l'on fasse tout pour le lui cacher. »
Françoise et Mademoiselle Violette protestèrent que le soleil du midi faisait des miracles. Mais encore fallait-il ne point habiter dans un appartement où il ne venait jamais. Et elle s'arrangerait pour que Madame Antenay, c'était le nom de la mère de Gisèle, fût installée confortablement dans un petit appartement du quai du Midi, où elle aurait la visite du soleil, de son lever à son coucher. Tout à coup, on entendit des coups brusques frappés à la porte du palier. On courut ouvrir, et Gisèle se jeta dans l'appartement, la figure bouleversée et éclatant en larmes, en sanglots convulsifs.
« Qu'y a-t-il ? Mais qu'y a-t-il ? » lui criait-on.
Elle essayait de se retenir, demandant pardon à tous ceux qu'elle ne s'attendait pas à trouver là, de son stupide émoi.
« Ce n'est rien, j'ai eu peur dans la rue. »«
Ça n'est pas vrai !» s'écria Mademoiselle Violette. « Je parie que c'est encore lui. Il vous a encore poursuivi. »
« Eh bien oui, c'est lui. Il m'a insultée. Il ne me lâche plus. »
Didier s'était levé si pâle et avec une figure si terrible que Françoise en fut épouvantée.
« Qui ? Qui donc vous a insultée ? » râla-t-il.
Mademoiselle Violette était allée à la fenêtre du petit balcon qui, au-dessus du toit,
permettait de voir dans la rue, et elle désignait un homme coiffé d'un chapeau mou, dont le col de par-dessus était relevé et qui avait les mains dans les poches, la canne sous le bras.
« Eh, c'est bien lui !» s'écria-t-elle. « Ce misérable poursuit tous les jours Gisèle. Il faut déposer une plainte. »
Mais déjà Didier, n'écoutant pas sa femme, qui, affolée, le suppliait de rester, s'était précipité hors de l'appartement comme un fou. En vérité, et je parle ici bien entendu pour le courant de la vie civile, il y a encore des nobles âmes, des cœurs aidant au bien, toujours prêts de bouillonner pour la vertu et qui n'hésitent pas de se lancer dans les aventures les plus désagréables dès qu'il s'agit d'un geste héroïque. On dit de ces gens que ce sont de vrais chevaliers, parce qu'ils ne manquent pas une occasion de défendre l'honneur des dames, et cela sans calcul d'aucune sorte, et même sans qu'ils gardent, par devers eux, la moindre idée de récompense. Ainsi, par exemple, M. Daumont. Il avait déjà suffisamment fait pour cette jeune fille, l'ayant tirée de la misère et lui ayant donné un bon état, pour qu'il fût en droit de croire ses devoirs de charité accomplis de ce côté. Et il pouvait s'en tenir là. Mon Dieu, Gisèle était assez grande pour se défendre contre les agaceries d'un passant, et même contre l'entreprise d'un fâcheux. Une employée de magasin qui se trouve en butte au discours ridicule d'un flâneur, et même à une tentative d'embrassement de la part d'un homme suffisamment épris pour oublier les mesures et la bienséance, cela se voit, cela n'est pas rare. C'est regrettable, mais la nature humaine n'est pas parfaite. Et quand elle oublie, dans un mouvement irrésistible, la politesse des mœurs et le respect dû aux demoiselles trop jolies qui rentrent tard le soir chez elles, le mieux ne serait-il pas de laisser aux éléments en hostilité le soin et le temps de tout remettre en ordre? L'indifférence ou le mépris d'une part, la lassitude ou l'orgueil froissé de l'autre auront au fait généralement de réduire la première ardeur d'un vilain monsieur qui, dans sa fatuité, avait pu se croire tout permis. Mais allez donc tenir ce langage de la raison aux redresseurs de tort, ils ne vous écouteront pas. Et dût-il en résulter pour eux la plus méchante avanie, les voilà tout de suite partis en guerre. Regardez M. Daumont descendre cet escalier comme un insensé, et se jeter dans la rue et chercher son homme, ou plutôt celui de Gisèle, avec des mouvements de dogue qui ne demandent qu'à mordre, et concevez qu'il a perdu l'esprit. Qu'est-ce que doit penser la pauvre Françoise là-haut? Elle doit certainement se dire « Eh bien, s'il se met dans des états pareils pour une étrangère à qui on a manqué de respect, que fera-t-il le jour où quelqu'un me regardera de travers? Ma foi, il ne pourra guère montrer plus d'irritation. » Et cette constatation la rend toute mélancolique. Mais comme elle est, dans son genre, animée de sentiments qui ne le cèdent en rien pour la noblesse à ceux de M. Daumont, et qu'elle aime celui-ci plus encore pour lui que pour elle-même, ce qui est le suprême de l'amour, elle a vite fait de rompre avec des réflexions qu'elle qualifie d'égoïstes, et n'a plus de transe que pour le sort réservé, dans cette algarade, à un homme pour lequel elle donnerait sa vie. Mademoiselle Gisèle, elle aussi, s'inquiète de ce qui peut arriver à son bienfaiteur, et elle exprime tout haut le regret de n'avoir pas su se taire. Mais elle ne savait pas que M. Daumont fût là, et surtout, elle ne pouvait pas se douter qu'il prendrait si à cœur cette petite affaire. Son émoi, ses excuses, sa douleur sont si sincères et exprimées avec une candeur si vraie que Françoise, dans le moment même qu'elle eût pu sentir naître en elle, pour Gisèle, une antipathie assez naturelle à la suite de l'attitude de son mari, toute de charité, certes, mais d'une charité exceptionnelle, fut la première à la consoler. Toutes deux étaient descendues aux nouvelles avec la même agitation, le cœur agité par le même effroi. En haut, cette pauvre madame en tenait ce pas, mais et il n'y avait que mademoiselle Violette aînée qui avait gardé un peu de sang-froid.
« Qu'est-ce que vous voulez qui arrive ? Monsieur Daumont dira son fait à ce Butor, et le Butor fichera le camp. Vous savez qu'on ne le voit plus, le suiveur. »
En effet, à l'apparition d'un monsieur qui agitait sa canne comme un fou, l'homme, s'enfonçant de plus en plus dans le col de son pardessus, avait pris par une rue transversale et dirigé sa marche, assez hâtive, vers les lumières d'une voie plus centrale. Monsieur Daumont fut bientôt derrière lui. Ils se trouvaient alors tous les deux en pleine obscurité. Monsieur Daumont lui jeta dans le cou « Arrêtez-vous donc un peu, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. »
À cette voix, l'homme tressaillit, mais ne s'arrêta pas.
« Voulez-vous vous arrêter ? » repartit Daumont. « J'ai à vous dire que vous êtes un lâche bonhomme, et que si vous ne cessez vos infâmes poursuites, c'est à moi que vous aurez affaire. » Mais l'autre ne s'arrêtait toujours pas. Bien au contraire, il faisait les enjambées doubles. « Vous entendez ?» continuait ce fou de Didier. « Que je vous vois encore sur le chemin de mademoiselle Antenay et je vous calotte. D'abord, vous ne partirez pas d'ici avant que j'aie vu votre figure. »
Et comme ils arrivaient dans la lueur d'un réverbère, le capitaine Daumont, levant sa canne, jeta sur le trottoir le chapeau mou de l'individu dont le haut du visage fut éclairé. Aussitôt, M. Daumont, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac, cessa net de gesticuler et poussa un sourd gémissement. Quant à l'homme, il ne prononça pas un seul mot. Il ramassa son chapeau, l'enfonça sur sa tête et continua son chemin.
« Le Parisien !» râlait M. Daumont. « Le Parisien !»
Et il revint sur ses pas en trébuchant, comme un homme ivre.